le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bon dimanche, c'est l'heure de votre émission, donc voici le sommaire. À la Cour pénale internationale, Bosco Ntaganda refuse de s'alimenter pour protester contre des restrictions que lui impose cette haute juridiction. Les détails dans quelques instants. Plus de 22 000 enfants ont déjà bénéficié de la justice pour enfants instituée depuis 2009. Il y a des avancées réalisées avec cette réforme, mais l'UNICEF préconise une révision portant protection de l'enfant pour prendre en compte tous les groupes d'enfants. Dans ce magazine, un responsable de cette agence onusienne est notre invité. Enfin, toujours avec l'UNICEF, de la justice à la santé, il n'y a qu'un pas. Nous allons nous rendre à Mbandaka avec cette même agence pour parler du choléra. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a envoyé cette semaine une mission dans cette ville qui fait face à l'épidémie de cette maladie. Et le MAG UN était dans la suite. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Jean Bosco Ntaganda, en grève de la faim à la Cour pénale internationale CPI. C'est depuis le 7 septembre 2016. Et pour cause, la haute instance judiciaire de la Haye a imposé des restrictions sur les contacts, les communications et les droits de visite à l'ancien chef rebelle. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies au siège de la MONUSCO, Margot Tedesco, responsable de la sensibilisation du bureau RDC de la CPI, donne ici le contenu de ces restrictions. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Ces restrictions limitent notamment le temps des visites. Les communications sont écoutées par le greffe, qui est l'organe non judiciaire de la CPI. Et au niveau également des visites, les visites sont limitées, évidemment. Et il est interdit pour Bosco Ntaganda de parler, de discuter de l'affaire en cours. Les juges ont notamment souligné le 9 septembre que le refus persistant de se présenter dans la salle d'audience ou de fournir un mandat à son conseil principal, Stéphane Bourgon, pour le représenter en salle d'audience, pouvait être vu, et là je cite le président juge de cette chambre, comme une tentative de perturber la procédure ou comme un refus délibéré de s'en conformer aux ordres, et ceci pourrait entraîner des sanctions.
Autre sujet abordé au cours de la conférence de presse des Nations Unies, les violations des droits de l'homme. Les bureaux conjoints en ont documenté pour le mois d'août 393 sur tous les territoires congolais, ce qui représente une hausse par rapport au mois de juillet. Le directeur de ce bureau, José Maria Aranaz, a donné plus de détails dans cet extrait sélectionné par Honoré Misenga Kalala.
Dans le mois d'août, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 393 violations des droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Les agents étatiques ont été responsables de 63 personnes de ces violations et ils ont commis au moins 27 victimes d'exécution sommaire ou judiciaire. Les groupes armés ont été responsables de 145 violation des droits de l'homme dans les territoires affectés par les conflits. 135 civils ont été tués dans les territoires affectés par les conflits, 109 par les groupes armés et 24 par les agents étatiques. Le bureau a enregistré au moins 63 violations des droits de l'homme et libertés fondamentales de l'espace démocratique qui sont des relations avec les élections à l'avenir. Dans le cadre des progrès, le bureau a enregistré au moins 21 membres de l'FRDC et au moins 7 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme dans le mois de août. Et le bureau salue les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Aussi, le rapport a salué les mesures de décrispation et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Souvent, il y avait 15 individus dans la liste partagée par les hauts commissaires et les représentants spéciaux avec les autorités qui ont été libérées. On a salué aussi l'instruction du ministre de la Justice au procureur de l'RDC par rapport des réquisitions des peines et qui souligne le droit à la liberté d'individu comme règle générale.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'Institut international pour l'agriculture tropicale, l'ITA, pilote avec le gouvernement congolais le projet de recherche sur l'innovation agricole, PRIA en sigle. Démarré en 2013 pour un financement de 3 millions de dollars américains, fonds du gouvernement, ce projet est arrivé au terme de sa première phase. Les résultats des deux de ces sous-projets ont fait l'objet d'un séminaire mardi 13 septembre 2016 au siège de l'ITA à Kinshasa. Un séminaire à l'issue duquel les représentants résidents de cet organisme panafricain, M. Nzola Maungu, a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
M. Nzola Maungu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes représentant résident de l'IETA. L'IETA, c'est l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Vous venez d'organiser un séminaire dans le cadre du projet de recherche sur l'innovation agricole en RDC. En quoi consiste concrètement ce projet?
Ok, ce projet consiste à redynamiser la recherche agronomique ici en RDC avec le financement du gouvernement congolais, l'IITA en collaboration avec l'INERA et certaines universités dans des provinces. Nous avons travaillé en réseau pour promouvoir la recherche agronomique par les Congolais.
Quels sont les objectifs de ce projet?
Ok, vous voyez, quand on fait la recherche agronomique, pour faire la recherche agronomique, c'est pas bon. Faire la recherche agronomique pour promouvoir l'utilisation de ces résultats par les paysans. Et une recherche agronomique qui va apporter des outils innovants, donc des résultats innovants que les paysans peuvent utiliser pour augmenter leur productivité, pour améliorer leur bien-être. C'est ça l'objectif de ce projet.
Oui, vous avez parlé du gouvernement, de l'INERA et de tous les autres partenaires. Mais en quoi consiste concrètement l'implication de l'IETA dans ce projet?
L'IETA, étant panafricain, étant international, a une expérience pour la gestion des projets de recherche agronomique. Et avec le financement du gouvernement, comme je venais de dire, les Congolais, les chercheurs congolais, qu'ils soient des l'INERA, des universités, même du secteur privé, ils soumettent des projets et quand ils sont sélectionnés, ils ont un financement qui va de 10 000 à 30 000 dollars pour qu'ils puissent exécuter les projets. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une présentation d'un lauréat qui a pu exécuter des projets et qui est arrivé presque à terme avec son projet ou bien ses projets.
Et quel est le coût général de ce projet?
Le coût général du projet, si nous parlons autour de 2,9 millions de dollars que le gouvernement a donné à l'ITA.
Donc environ 3 millions de dollars.
Correct. Et ça, c'est pour 3 ans.
Oui, le projet a commencé d'après ces gens en 2013.
En 2013, nous sommes arrivés presque à la fin. Et comme on a encore des fonds à notre disposition, le gouvernement a autorisé que nous prolongions le projet jusqu'à fin décembre de l'année prochaine sans ajouter un franc. C'est ce que nous appelons prolongement sans frais. Et c'est ainsi que les participants disaient que c'est une gestion transparente. Voilà, donc on utilise l'argent pour les besoins des chercheurs.
Monsieur le représentant résident, il y a une année, le directeur général de l'IITA avait annoncé dans ce pays, à Kinshasa, un financement de la base de 35 millions de dollars américains pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes œuvrant dans le secteur agricole. Où en sommes-nous une année après?
Une année après, les choses ont avancé. La mission de la BAD qui est venue pour les 35 millions a émis le vœu d'avoir une mission préparatoire. Le gouvernement du Congo vient de bénéficier $1 million juste pour organiser un atelier quelques études qui vont permettre à formuler ces grands projets qui n'est plus de 35 millions, peut-être que ce sera au-delà de 35 millions qui va débuter, si tout va bien, au début de l'année prochaine.
Une dernière question, peut-être un mot sur le statut de votre organisme, l'IITA. C'est une ONG internationale, un organisme spécialisé de l'ONU, un partenaire. Quel est son rapport avec des institutions spécialisées de l'ONU comme la FAO, le FIDA, qui sont aussi dans la promotion de l'agriculture?
Ok, il y a les organismes des Nations Unies, mais l'ITEA est à mi-chemin entre les Nations Unies et le secteur public. Nous sommes des secteurs publics internationaux. Donc l'ITEA fait partie du centre qu'on appelle centre CGR. CGR, c'est un consortium de centres internationaux. Nous sommes 15 au monde, 15 au monde distribués dans plusieurs continents. Et l'ITEA est plus en Afrique. Nous sommes dans 20 pays africains, comme l'avait dit notre directeur. Donc c'est ça notre statut. Nous sommes un centre d'excellence pour la recherche agronomique.
Alors, rapport avec la FAO?
Ok, la FAO comme telle, dans le centre CGR, la FAO comme l'arme technique. Pendant que les PNUD, les FIDA, ce sont des financiers qui arrivent parfois à nous donner aussi des fonds pour faire la recherche agronomique.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je vous en prie.
Cette page des nouvelles en brève par la visite en RDC du 9 au 13 septembre 2016 de M. Atulkar. Lors de sa mission, le secrétaire général adjoint des Nations Unies à l'appui aux missions a rencontré notamment le ministre de la Défense et le président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans l'est du pays, M. Atulkar s'est également rendu à Goma, Beni, Oicha, Ruindi et Kindu où il s'est entretenu avec le personnel et les troupes de la MONUSCO. Restons toujours à la MONUSCO pour annoncer la série de formations qu'organise la mission onusienne dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Ces formations portent sur la police des mines à Mbujimayi, la police de proximité à Lubumbashi et à Mbujimayi encore, ainsi que sur la sécurisation des armes à feu à Bukavu. Quel est le coût de la faim et ses conséquences en République démocratique du Congo? Il s'agit là d'une étude dont le lancement a eu lieu mercredi le 14 septembre dernier à Kinshasa dans le cadre d'un projet de la Commission de l'Union africaine soutenu par le Programme alimentaire mondial et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'étude se propose de chiffrer les coûts qu'entraîne la sous-nutrition infantile pour les secteurs de la santé, de l'éducation et la productivité et d'illustrer le manque à gagner lié au sous-investissement dans la nutrition.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
En partenariat avec l'UNICEF, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé du 13 au 17 septembre 2016 un atelier sur la formation fonctionnelle au bénéfice des juges pour enfants et officiers du ministère public. C'est là pour une application plus efficiente de la justice pour enfants en RDC par une meilleure compréhension de la loi portant protection de l'enfant en vigueur depuis janvier 2009. L'invité de ce dimanche est M. Innocent Bougandoua Zigabe de la section protection et justice pour enfants de l'UNICEF. Suivez l'entretien qu'il a accordé à Honoré Misenga Kalala à ce sujet.
Innocent Bougandoua Zigabe, bonjour.
Bonjour Honoré.
Le Conseil supérieur de la magistrature en partenariat avec l'UNICEF s'est lancé dans un programme de formation sur la justice pour enfants en RDC. Pourquoi ces formations?
Ces formations ont un double objectif. Ils sont importants parce que voyez, les tribunaux pour enfants sont en train de s'implanter en RDC il y a à peine 6 ans. De nouveaux juges sont en train d'être affectés dans ces tribunaux pour enfants. Et donc, c'est leur premier contact au fait avec la justice pour enfants. C'est pourquoi l'UNICEF a souhaité accompagner le Conseil supérieur de la magistrature dans son initiative de renforcer les capacités techniques des juges qui sont affectés dans les tribunaux pour enfants.
Oui, au nombre de ces capacités, il y a cette formation qui s'est tenue du 13 au 17 ici à Kinshasa, intitulée Formation fonctionnelle mixte. Pourquoi vous appelez cette formation fonctionnelle?
Nous l'appelons une formation fonctionnelle parce que les bénéficiaires de cette formation sont en réalité des juges et des officiers du ministère public qui sont déjà en fonction. Et donc la formation, ce n'est pas une formation de base, comment dirais-je, initiale. mais c'est une formation qui vise à renforcer les compétences fonctionnelles des juges qui travaillent déjà, qui sont déjà sur le terrain et dans leur bureau.
Avec quel objectif ?
L'objectif, c'est ça, c'est renforcer leurs capacités, leur donner les compétences nécessaires qui leur permettent d'aborder avec aisance le travail qu'ils réalisent au quotidien en faveur des enfants, que ceux-ci soient en conflit avec la loi ou victimes des violations de leurs droits.
Tous ces juges viennent seulement de Kinshasa ou de toutes les provinces ?
Ils viennent de toutes les provinces où il a plu au président du Conseil supérieur de la magistrature d'affecter les nouveaux juges pour enfants. Donc il y a au total 44 juges pour enfants qui suivent la formation.
En dehors de la formation fonctionnelle, quelle autre stratégie vous préconisez ?
En dehors de la formation fonctionnelle des juges et des formations ponctuelles qui sont, comment dirais-je, coûteuses, peu efficaces et inefficientes, le Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec l'UNICEF, est en train d'envisager de se rapprocher plutôt du ministère de l'enseignement supérieur. Depuis un temps, grâce à l'expertise du professeur Raoul Kengekenge, la commission permanente des études du ministère de l'enseignement supérieur a validé un plan d'intégration des matières liées à la protection des enfants dans les facultés de droit. La prochaine phase, c'est l'adoption en fait de ce plan par les doyens des facultés de droit, et puis un arrêté du ministre viendrait achever le processus d'intégration. On espère que d'ici cette année, au moins les universités privées peuvent déjà commencer à dispenser un cours des droits de protection des enfants comme un cours des droits communs obligatoire dans le premier cycle des universités, et en attendant que l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur permette aux autres universités officielles de faire la même chose. Ceci va permettre au fait d'avoir des juristes qui sortent des universités avec un background suffisant sur les notions de protection de l'enfant. Ils n'auront plus besoin de suivre des petites formations ad hoc de 3 ou 4 jours qui n'atteignent pas du reste tout le monde, mais ils vont sortir, même en tant qu'avocat, qui travaille en tant qu'avocat, qui travaille en tant que défenseur judiciaire, qui travaille en tant que juge, qui travaille en tant qu'officier du ministère public ou qui travaille dans un service quelconque du ministère de la Justice comme les services de documentation et d'études. Ces magistrats disposeront déjà des connaissances et des compétences utiles pour vraiment être les acteurs efficace du système de justice pour enfants.
Il y a un peu plus de 7 ans maintenant, depuis l'institution d'une justice spécialisée pour enfants en République démocratique du Congo, que l'appréciation de l'UNICEF pourrait avoir cette réforme en termes des avancées déjà réalisées.
Il y a des avancées énormes, aussi bien sur le plan normatif que sur le plan structurel et fonctionnel. La première avancée, je dirais, c'est qu'au départ, avec les décrets de 1950, on n'avait pas de tribunaux pour enfants. Les colons belges, ils ont pris un décret, mais n'ont jamais pu installer des juges pour enfants. Ce sont les commissaires des districts qui faisaient à la fois office des juges pour enfants. Mais avec la loi portant protection des enfants et l'appui que l'UNICEF apporte à la fois au Conseil supérieur de la magistrature et au ministère de la justice et des droits humains, on a pu déjà installer 18 tribunaux pour enfants opérationnels qui sont vraiment des juridictions spécialisées et qui prennent en compte les décrets de maturité et l'âge des enfants. Et donc ça, c'est une avancée assez significative, hein. Et au niveau de l'Afrique centrale, je pense que nous sommes le tout premier pays à avoir des tribunaux pour enfants. Au-delà de ça, il y a que nous avons des mécanismes de médiation extrajudiciaire qui sont opérationnels dans certaines provinces déjà et qui permettent à l'enfant de ne pas être confronté à un système judiciaire. Au-delà de ça, il y a toutes les formations que nous sommes en train de développer avec le Conseil supérieur de la magistrature et les ministères de la justice et des droits humains, et même avec les ministères de l'enseignement supérieur, qui constituent des avancées importantes pour les systèmes de justice pour enfants et pour le système global de justice en RDC. En fait, les systèmes de justice en RDC fonctionnaient un peu de manière jusque-là, de façon un peu déséquilibrée. On avait une justice totalement focalisée vers les adultes, mais qui ne prenait pas suffisamment en compte les droits des enfants. Quand vous lisez les plans d'action nationale de réforme de la justice de 2007, la première chose qui ressort directement, c'est que on n'a pas donné à l'enfant l'importance qu'il mérite. Il y a juste 2 ou 3 phrases qui sont en rapport avec l'élaboration d'un code de protection de l'enfant, mais il n'y a rien de spécifique qui vise à vraiment instaurer, implanter un véritable système de justice pour enfants. Ceci n'a été possible qu'avec la loi de 2009, et nous sommes en train de le soutenir. Et bon, jusque là, il y a plus de 22 000 enfants qui ont bénéficié d'un système de justice spécialisé dans toutes les RDC. C'est-à-dire que dès que nous aurons, disons, avec le Conseil supérieur de la magistrature, mesure implanter le système dans les 26 provinces de la RDC, ce système sera d'une efficacité formidable. Et si surtout le système de protection de l'enfant intègre la protection des enfants victimes. Parce que jusque là, suivant la logique de la loi portant protection de l'enfant, le système de justice pour enfants est orienté plus vers les enfants en conflit avec la loi. Le titre 3 de la loi portant protection de l'enfant est totalement focalisé vers la protection des enfants en conflit avec la loi. En ce qui concerne les enfants victimes de violences, on a juste un complément d'infraction apporté au code pénal congolais. Il y a une liste d'infractions, mais il n'y a aucun mécanisme de protection des enfants sur le plan judiciaire. Nous espérons qu'une révision prochaine de la loi portant protection de l'enfant permettrait de prendre en compte l'ensemble des enfants au même niveau, c'est-à-dire que ces enfants soient auteurs d'une infraction ou d'un manquement qualifié d'infraction ou qu'ils soient victimes d'une infraction ou témoins. Parce qu'un enfant peut aussi assister à une bagarre entre ses parents, par exemple, une violence entre ses parents. Cet enfant a besoin d'être protégé si jamais la justice décide qu'on doit arrêter le parent ou protéger la mère. La justice devrait se préoccuper du sort de cet enfant. Quelles mesures de garde apporter à cet enfant-là? Donc une révision de la loi permettrait de prendre en compte tous ces paramètres.
Donc l'UNICEF estime que cette loi qui date de 2009, il y a une nécessité de la réviser.
En tout cas, déjà, la loi pose d'énormes difficultés d'application parce qu'elle est parfois ambiguë et lacunaire. Et donc l'UNICEF est en train de soutenir les ministères de la Justice et des Droits Humains pour essayer de développer une réflexion sur les insuffisances de la loi portant protection de l'enfant de façon à ce que, à court terme, on puisse l'amender. Sinon, si on n'arrive pas à la réviser, elle portera plus de tort aux enfants que de bien.
Monsieur Inonsa Bougando-Zigabe, merci.
Merci beaucoup.
Mbandaka en proie à une épidémie de choléra, une épidémie qui s'intensifie et s'amplifie dans la ville et ses environs. Une mission de l'UNICEF est allée toucher du doigt cette réalité sur le terrain du 13 au 16 septembre 2016. Jean-Pierre Elali a accompagné cette délégation et visité notamment le centre de traitement de choléra de Ouangata, lequel a enregistré depuis mai dernier 720 cas de malades. Suivez plutôt ce reportage.
Le centre de traitement de choléra de Ouangata est situé en face de l'hôpital général de référence de la commune qui porte le même nom. Il occupe un espace d'au moins 500 mètres carrés. À l'extérieur, deux ambulances apprêtées par le gouvernement provincial. Elles ramènent vers le centre tous les cas suspects de la ville et des environs. Nous-mêmes avons été témoins de l'arrivée de deux nouveaux cas, un enfant de 5 ans et un adulte, tous deux dans un état critique. À l'entrée, les visiteurs sont soumis au lavage de mains, à l'eau chlorée et à la désinfection des pieds. Le docteur Narcisse Mantété de l'ONG ADRA, un des médecins traitants, explique les différents compartiments du centre et le processus de prise en charge des malades.
Ce centre a trois parties en général. La zone nette, la bianderie, les vestiaires, les personnels, la pharmacie, la zone où on traite l'eau. L'autre zone, c'est la zone des malades. C'est là que nous prenons en charge les malades. Et la troisième zone, c'est la zone de gestion des déchets. Nous avons trois catégories de malades. Des malades avec des déshydratations sévères, c'est ce que nous appelons plan C.
C'est ce que nous avons vu tout à l'heure.
Oui. Comme celui qui venait d'arriver. Là, on lui donne du liquide en perfusion et aussi le SRO par voie orale. Ça, c'est le premier cas, les cas les plus graves. Ou alors, si le malade est au plan B, donc avec des hydratations modérées, si c'est un malade qui vomit, on lui met aussi la perfusion. S'il ne vomit pas, il prend seulement le SRO par voie orale. Ou alors, si c'est un malade qui n'a pas de signes de déshydratation, c'est ce qu'on appelle plan A, là, on les traite par SRO seulement pendant 6 heures. Si ça évolue bien, on les libère.
Avec ces 700 cas, le centre de Ouangata illustre bien l'ampleur du choléra dans les provinces de l'Équateur et de la Mongala. Selon le chef de bureau AI de l'UNICEF, la province de l'Équateur compte un peu plus de 3000 cas à ce jour, d'où la mobilisation des efforts combinés du gouvernement provincial, de l'UNICEF et des ONG partenaires comme ADRA, Oxfam pour donner une réponse efficace à l'épidémie. Jean-Pierre Elali Ikoko, Mbandaka, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Que s'est-il passé réellement à Kasumbalesa le vendredi 9 septembre 2016 et combien de morts y a eu? Question posée au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Suivez plutôt la question ainsi que la réponse du directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme, José Maria Aranaz.
Marc pour l'agence France Presse. Le vendredi dernier à Kasumbalesa, les troubles ont éclaté. Est-ce qu'aujourd'hui la MONUSCO peut nous dire ce qui s'est réellement passé? passé sur le terrain? Est-ce que vous avez un bilan par rapport au nombre de morts?
Oui, notre rapport provisoire a documenté au moins 6 civils qui ont été tués par les armes létales, et ça inclut une femme et une petite fille et un policier qui était tué par la population. Comme toujours, nous étions très préoccupés par l'utilisation de ces armes létales dans les contrôles des manifestations et des protestes par les forces armées ou par la PNC.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Billy Van Lutumba Kanyema, marié, père de 4 enfants. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, je me mets sur un banc de classe pour la première fois de ma vie dans la cité de Kambove. C'est dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Puis je poursuivrai mon école primaire et secondaire à Likasi, à l'Institut Oustawi. Permettez-moi une incise à ce niveau pour passer un bonjour à tous les Adusta. Et vous allez me demander, Adusta c'est quoi? C'est les anciens d'Oustaoui qui sont éparpillés à travers le monde entier et vaillants professeurs de cette école élite. L'humaine est montée, ils savent de quoi je parle. Je finis par décrocher mon diplôme d'état en option biologie-chimie à Mbujimayi. Un certain 31 juillet 2004, l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimayi me décernera mon diplôme de licence en pédagogie appliquée, option biologie. Voilà ce qui est de mon cursus scolaire et académique. Pour mon parcours professionnel, je dirais que j'intègre pour une première fois une structure professionnelle en 1997, quelques années juste après avoir décroché mon diplôme d'état. Après avoir longtemps nourri l'idée de me voir en train de présenter un journal parlé comme Edmond Sadakar, que plusieurs d'entre nous connaissent très bien, il s'agit d'un journaliste de la RFI, Radio France Internationale. Je disais donc que j'intègre la chaîne de radio-télévision Kassai Horizon en juillet 1997, une des premières chaînes privées du pays. Là, on est en Mbujimayi. Je peux même dire que c'est à cette radio que j'acquiers les rudimentaires des médias. Je considère cette maison comme un centre d'apprentissage car c'est là que j'ai consolidé la prise des vues avec une caméra que j'avais déjà débutée à la maison quand j'avais encore 16 ans. C'est là, aux côtés du propriétaire de la chaîne qui a une forte expertise en télécommunication, que j'apprendrai la prise des sons et la mise en onde avant de passer à l'animation. Cependant, compte tenu de certaines considérations, j'ai dû quitter la KHRT pour passer dans deux autres médias privés, toujours en Mbujimayi, où j'ai fui animateur d'émissions des jeunes, présentateur des journaux parlés et télévisés à la télévision catholique du diocèse de Mbujimayi, c'est la télé fraternité, la RTF. Et en 2005, avec l'ouverture du bureau de la MONUSCO au Kassai Oriental, j'ai passé mon test et j'ai fui retenu des 22 candidats en liste parmi les 4 journalistes pour la radio Kapi Mbujimayi en août 2005. Depuis 2005, j'œuvre pour cette radio qui m'a permis de me professionnaliser davantage dans le métier avec diverses formations en journalisme et la découverte du fin fond de la République démocratique du Congo, car j'ai sillonné plusieurs contrées du pays pour réaliser des reportages. Depuis 2011, j'ai rejoint la rédaction centrale de Kinshasa où j'évolue au desk langue, et depuis une année, j'ai la charge de la présentation des actualités internationales. Comme tâche quotidienne, je suis du shift soir, j'arrive aux alentours des 13h30 au bureau et à 14h, je participe au conseil de rédaction. Après le conseil de rédaction, je passe maintenant à mes tâches de la journée, en commençant d'abord par la navigation sur les sites d'information où je dois collecter les différentes dépêches des différentes agences afin de préparer les tranches des synthèses d'actualité internationale. Puis je passe à la rédaction et dès que je termine la préparation de mes deux livraisons, je commence la traduction des nouvelles du pays. Mon temps libre, je le passe souvent à la maison avec les enfants. On s'amuse avec les enfants à la télé et à d'autres jeux au niveau de la maison et surtout avec notre chien. Préférence pour ce qui est de la nourriture, c'est une préférence frites et poisson. Mais en tant que Congolais, bantou, c'est le muteta, ici on appelle bilolo, poisson frais avec le foufou. Et les sports, c'est le football, volleyball et tennis de table. Mais pour moi-même, en temps libre, je fais le taibo. Il s'agit d'une gymnastique avec des exercices physiques. Musique, je préfère les anciens succès congolais avec beaucoup plus Luambo, Madilou et les autres belles compositions de la rumba congolaise. Comme projet d'avenir, on n'est pas éternel à la radio, les institutions restent et les personnes passent. Acquérir encore plus d'expérience sur le plan international, sinon j'évoluerai en solo dans mon pays avec des activités privées. Voilà un peu ce que je peux dire sur ma personne.
Musique. magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
Une date à retenir pour la semaine qui commence le 21 septembre, ce sera la commémoration de la Journée internationale de la paix. Cette année, le thème de la journée est « Les objectifs de développement durable, composante de la paix ». Et pour l'événement, la MONUSCO a prévu plusieurs activités aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à Honoré Missenga et Jean-Pierre Elali Kitoko qui l'ont réalisé. Alain Goy était à la technique. Moi, c'est Suzanne Zobo-Audra. Je vous l'ai présenté. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bon dimanche et à la prochaine.